Mais quand j'entends les profs, quand j'entends les professeurs qui ne vont pas aider Emmanuel Macron, hein, le 11 mai, parce que les profs, ils vont pas l'aider, dire qu'ils ne veulent pas rentrer, parce que la sécurité, parce que la sanitaire, parce que ceci, etc. Il y aura toujours des bonnes raisons pour ne pas rentrer. Alors je vais me faire aussi pas des amis en disant ça, mais globalement, les profs, il y a un moment, faut y aller. Il y a un moment, faut y aller le 11 mai. Mais je vous dis qu'ils ne l'aideront pas. Les enfants, ils sont asymptomatiques et ils transmettent peut-être pas le virus. Donc faut y aller, faut y aller. Il y a toujours une part de risque, mais faut y aller. Et c'est comme les postiers, disons-le. Les postiers qui sont à la poste, qui sont arrêtés, il y a quelque chose qui... Mais oui, mais c'est la fonction publique.
Parce qu'au départ, ils n'avaient pas de...
Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est la fonction publique.
Il est sorti. Il est sorti.
Il est sorti. Privé de sortie,
privé de sortie,
l'émission des confinés de Marseille.
Privé de sortie,
privé de sortie,
c'est l'émission des confinés de Marseille, en direct, depuis un appart, confiné, bien sûr.
Ciao la mif, il est 16h, vous écoutez Privé de sortie sur Radio Galère 884 à Marseille et jusqu'à Moisiland. Et un peu partout sur radiogalère.org.
Yes, salut à toutes et à tous.
Salut la mif.
Ça fait pile un mois que le confinement a débuté, l'émission aussi. D'ailleurs, c'est notre 25e en 31 jours. Et si on compte les rediffs du samedi et les dédicaces du dimanche, bah, je crois que ça fait 31 numéros. Pour ma part, j'avais jamais participé à animer une émission de radio avant. Je sais plus trop ce que j'imaginais pour celle-ci quand on a débuté. Mais sûrement pas en arriver à cette forme. Je suis super heureux qu'on ait pu interviewer autant de personnes qui assurent et dont certaines sont des amis, qu'on reçoive des contributions quotidiennes de nos chroniqueuses qui font bien sûr partie de l'équipe, même si on peut pas se voir souvent, et puis vos retours qui nous font grave chaud au cœur. En vrai, on en a besoin. Big up à Karim Anouche d'El Moisiland, à Matteo et à Reizan. Vous pouvez pas savoir comment vos mails d'aujourd'hui nous ont fait plaisir et nous ont touchés.
Big up Radio Piquaise.
Yeah, merci la FMIF.
Et bon, tout ça étant dit, je vais pas vous cacher que ces derniers jours, et pour parler que de moi, j'ai eu un peu de mal à préparer l'émission. Baisse de régime, baisse de morale et de motive. En vrai, une quotidienne, c'est un rythme un peu dur à suivre pour un glandeur tel que Wham. Et puis, du coup, on pense un peu qu'à ça. On a la tête dans les infos toute la journée et c'est pas vraiment gay. Alors, on en a pas mal discuté hier soir avec les potos. On va essayer de se renouveler, peut-être changer un peu de forme d'émission et tout ça. Ça nous a aussi donné l'occasion d'évoquer le moment où on arrêtera, parce que ça arrivera. Est-ce que ça sera à la fin du confinement? La fin du confinement pour qui d'ailleurs? On n'a pas de réponse pour l'instant. Bon là, évidemment, ça peut paraître un peu branleur, mes états d'âme, on fait juste une émission de radio. Hein. On a écouté ici même une copine infirmière aux urgences, on a écouté les gens du collectif Maison Blanche, du collectif du 3ème, de El Mamba, du McDo de Saint-Barth, tout ce monde-là qui se bouge à fond pour faire en sorte que des familles aient de quoi becter tous les jours. On a eu hier une copine du Château en Santé qui apporte des soins et de l'écoute dans les quartiers oubliés des pouvoirs publics. Et puis plein d'autres qui galèrent bien plus que moi, donc bref, je relativise. Quoi qu'il en soit, on garde le créneau, même heure tous les jours, on va faire en sorte de continuer à produire des trucs qui vous plairont et que ça reste un kiff pour nous. On va continuer à relayer autant que possible la parole de ceux qui n'ont pas droit de citer, de celles qui se bougent, et on va aussi continuer à vous parler de ceux et celles qui veulent nous la faire à l'envers, et on se laissera pas faire.
Jamais.
Au menu aujourd'hui, un texte qui nous vient de Act Up et qui est lu par Elisa, une analyse critique du rapport parlementaire Marjoubi sur le traçage des données mobiles, une tribune signée par différents collectifs sur l'état du logement marseillais, la chronique de R, les brèves d'actu et bien sûr la playlist avec des vrais morceaux de copains et copines à l'intérieur. Et direct, on commence avec les numéros de téléphone utiles.
Et ouais, on va commencer avec ces numéros de téléphone utiles qu'on vous rappelle à chaque fois et que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. La page Facebook de la radio de cette émission, c'est Privé de sortie radio confinée. que vous retrouvez sur Facebook. Et donc, il y a tous les numéros qui sont indiqués. Et pour rappel, on vous les donne maintenant. À commencer par les numéros concernant les violences conjugales, les violences familiales. Donc, il y a Violence Femmes Info, un numéro national qui est le 3919, que vous pouvez aussi contacter par SMS au 114. Sur Marseille, il y a le Centre d'Info des Droits des Femmes et de la Famille au 04 96 11 07 99. Également, le numéro pour l'enfance maltraitée au 119. Dans le même spectre, ou je sais pas comment dire, il y a le planning familial aussi, qui est un numéro d'urgence pour les questions autour des sexualités, de la contraception et de l'avortement, au 0800 08 11 11. Concernant le soutien aux personnes migrantes, à Marseille, il y a le numéro d'urgence d'El Mamba, c'est le 07 51 05 63 45 de 9h à 18h. Et puis, concernant le droit du travail, les questions de chômage partiel, de droit de retrait, etc., vous pouvez contacter par exemple Solidaire au 0805 37 21 34 ou la CNTSO de Marseille au 07 72 31 93 12. Concernant les violences policières, un numéro marseillais a aussi été ouvert, c'est le 07 51 14 97 80, vous pouvez les contacter si vous avez été témoin ou victime de violences policières. Et puis enfin, concernant les prisons et les lieux d'enfermement dans leur plus grande acception, à savoir les centres de rétention, les établissements pénitentiaires pour mineurs, les HP, etc., il y a le topo quotidien sur les prisons du lundi au jeudi sur Radio Galère à midi, que vous pouvez réécouter également sur l'envolée.net. C'est le groupe L'Envolée qui vous propose ça, qui propose ça à tout le monde. Et le numéro d'info, c'est pour L'Envolée, c'est le 07 52 40 22 48. Et puis on va faire un petit dernier gros big up aux équipes qui assurent Parloir Libre quasiment tous les jours de la semaine sur Radio Galère. On vous rappelle les horaires, c'est le lundi, mardi et mercredi de 20h à 21h, les jeudis de 20h30 à 22h et les samedis de 19h à 21h. Il s'agit d'une émission de messagerie entre détenus et leurs familles, entre familles de détenus, etc. Ça durera pendant tout le confinement, ces augmentations d'horaires, et il faut écouter les émissions pour connaître le numéro de téléphone. Aujourd'hui, playlist un petit peu particulière qui a été faite à six mains, et on commence avec un Rachida que vous reconnaîtrez très probablement. 88.4 Radio Galère, monte le son. We'll be right back.
Yes, vous êtes toujours sur Privé de Sortie, sur le 88.4 à Marseille, Radio Galère. D'aucuns auront reconnu d'où vient le sample de notre petit jingle, Barbès de Rachid Taha. Là, on va enchaîner sur... Il y a Elisa qui, très chouettement, qu'on a interviewé hier au château, qui intervient au château en santé, et qui nous parlait d'une lettre qu'a écrite Act Up, qui est adressée au pouvoir public, et qui nous a très sympathiquement enregistré ça. Donc, on va écouter ça tout de suite.
C'est une lettre qui est assez dense, du coup je vais essayer de prendre le temps pour la lire. Donc c'est une lettre qui a été écrite notamment par des personnes qui militent chez ACT UP, ACT UP Paris précisément, et puis peut-être un peu aussi d'autres gens. Et elle est adressée du coup à Françoise Barré-Sinoussi et Jean-François Delfrécy, qui actuellement sont dans le comité Analyse, Recherche et Expertise, donc le CAIR, qu'a mis en place le gouvernement le 24 mars, qui s'est installé à l'Élysée le 24 mars, et qui est censé être un comité de personnes qui conseillent le gouvernement durant l'épidémie, donc pour la gestion de l'épidémie et puis les questions liées au confinement. Du coup, c'est pas mal des médecins, des scientifiques, etc. Donc, ACT UP, là, dans cette lettre, s'adresse particulièrement à Françoise Barré-Sinoussi et Jean-François Delfrécy. Alors, je commence. Beaucoup de celles et ceux qui sont aujourd'hui aux avant-postes de la mobilisation nationale contre le Covid-19 ont été des partisans de la lutte contre le sida. Dans les années 1980, jeunes internes ou jeunes chercheurs, ils et elles s'acharnaient contre le VIH dans leurs services hospitaliers ou leurs laboratoires. C'est à eux que nous nous adressons aujourd'hui pour les enjoindre de fonder leur position sur les acquis de la démocratie sanitaire issus de nos années de lutte partagée. Chère Françoise Barré-Sinoussi, cher Jean-François Delfrécy, vous savez tout ce que les victoires obtenues contre le sida doivent à la révolution du rapport entre savoir et pouvoir. Les malades étaient alors, dans leur grande majorité, des marginalisés, homosexuels, détenus, héroïnomanes, personnes trans, travailleurs et travailleuses du sexe, immigrés d'Afrique subsaharienne. Dès les premières années, ces malades ont pris la parole, ont revendiqué le savoir dont ils et elles étaient les dépositaires, ont imposé leur participation à la décision publique. Ils se sont regroupés en associations et ensemble, nous avons construit la politique de lutte contre le sida. Avec vous et vos collègues, sous la pression constante des malades, celle que rappelle le film partout célébré 120 battements par minute, nous avons érigé la lutte contre le sida en paradigme et modèle de lutte contre les épidémies. La seule lutte efficace, celle qui lie de manière indissociable santé publique et droits humains, qui refuse de confier le pouvoir aux seuls scientifiques ou aux seuls politiques, qui fait de la participation des citoyens et de l'inclusion des populations minoritaires, démunies ou ostracisées, la clé du succès. Sur chacun de ces volets, les décisions actuelles face à l'épidémie de Covid-19 et les avis sur lesquels elles s'appuient sont à rebours de cet héritage, dans la façon dont elles sont recommandées et avalisées. Aucune participation de la société civile, primat absolu de la médecine sur la pensée sociale, dont elles sont administrées, état d'urgence sanitaire, loi d'exception, pénalisation des comportements, et dont leurs effets inégalitaires sont minorés ou englobés dans le mot valise boîte noire de la vulnérabilité. Le vocabulaire guerrier et la scénographie militaire que nous impose le pouvoir face à cette épidémie-ci paraît un ironique retournement de l'histoire pour nous qui déclarions, face au silence assourdissant de l'État d'alors, le sida c'est la guerre et sida mobilisation générale. Un retournement en trompe-l'œil, venu d'en haut, sans les contreparties qu'une réelle mobilisation générale aurait dû imposer, anticipation, approvisionnement, réquisition des stocks et chaînes de production. Cette drôle de guerre est juste une politique qui pénalise, culpabilise, exclut. Elle met au banc des publics qui, parce qu'ils sont les plus en difficulté pour se protéger, devraient au contraire être au cœur de la façon dont nous pensons la riposte contre l'épidémie. Aujourd'hui, l'épidémie touche tout le monde, les mesures pour l'endiguer également. Mais ne nous trompons pas, les moins protégés face au Covid-19 et les plus exposés au risque de complications respiratoires sont et seront des invisibles. Les vieux, particulièrement, les vieux pauvres, atteints de comorbidités accumulées au fil d'une vie où les inégalités sociales se sont inscrites dans les corps, ceux des EHPAD inhumains ou des foyers de travailleurs migrants, les malades chroniques, les sans domicile fixe, les travailleurs précaires de plus de 50 ans, les anciens addicts, alcooliques, usagers de drogue. Et ce sont encore des invisibles qui, en difficulté face aux injonctions paradoxales du confinement, obligés de travailler ou de maintenir des stratégies de débrouille, seront les plus concernés par la persistance de l'épidémie dans la phase de déconfinement. Étrangers en situation irrégulière, précaires et chômeurs en fin de droit, foyers vivant de l'économie informelle, travailleurs et travailleuses du sexe, indisciplinés de toutes sortes, familles à l'étroit dans leurs appartements trop petits, dans leurs cités trop denses. Ensemble, nous avons imposé à des pouvoirs réticents la promotion du préservatif et les programmes d'échange de seringues, l'accès aux soins universels, quel que soit le statut au regard du séjour ou le niveau de revenu, la réduction des risques liés pour les usagers de drogue plutôt que l'injonction au sevrage comme alternative à la prison et conditions des soins, la prévention sexuelle combinée plutôt que les bonnes mœurs, la défense des droits des détenus et des travailleurs et travailleuses du sexe, le financement de campagnes spécifiques pour les communautés afro-antillaises, pour les Noirs. Cette guerre que nous avons livrée n'a jamais été celle des gouvernants, mais celle de ces populations, trop souvent, justement, malgré ceux qui nous gouvernaient. C'est ainsi que nous avons été forts et efficaces, faisant de ce combat sanitaire un creuset de transformation sociale, de promotion des droits et de progrès vers plus d'égalité. Aujourd'hui, héritiers de ces luttes, vous êtes en position d'exiger la réquisition des équipements publics pour y loger les populations sans abri, l'organisation de la solidarité nationale pour les familles vivant de revenus non déclarés, la réquisition de logements pour permettre la décohabitation des femmes et des enfants exposés aux violences domestiques, celle des hôtels pour faciliter le confinement des personnes infectées afin qu'elles ne contaminent pas leurs proches, la fermeture des centres de rétention administrative et des zones d'attente, l'intégration sans délai de l'aide médicale d'État dans le droit commun et l'abrogation des délais pour y accéder, la régularisation des sans-papiers et la fin de la surpopulation carcérale. Vous êtes en position de demander avec force la mobilisation massive de moyens pour la santé de toutes et tous, la réorientation et la réquisition des moyens de production de masques, de blouses, de respirateurs, de matières premières, de réactifs, médicaments de première nécessité. Vous avez le pouvoir de recommander clairement des mesures ambitieuses face au creusement des inégalités qu'un confinement punitif ne peut qu'amplifier, avec pour conséquence en chaîne. Les décrochages scolaires puis sociaux, le renoncement aux soins autres que ceux liés au Covid-19, la défiance à l'égard des structures médico-sociales et des institutions. Vous devez, enfin, créer les conditions d'une réelle participation de la société aux décisions à venir. Conscient des nécessités de l'urgence, vous avez su, en d'autres temps, rompre avec les pesanteurs du politique et des institutions, bousculer leurs agendas et leurs microcosmes pour agir sans attendre. C'est de ces mêmes exigences que nous vous demandons de vous saisir à nouveau. Action égale vie. Voilà, le texte est assez long et il est signé par pas mal de gens d'ACT UP.
Privé de sortie, c'est tous les jours de 16 à 17h sur Radio Galère. Amatomic Production.
Avec mes copines, on hâte de piloter le jet, pour ça pas besoin de minauder. Tu m'as marqué sous ma parka, je me suis cambré pour un high kick. Aïe aïe aïe, tu l'avais pas vu venir. Va que va, j'effacerai vos sourires. T'es tenace, mais je suis bien pire. La menace, elle vient d'en bas. Me sens jacques sur vos ruines, éclabousse vos principes. Je pousse un soupir de plaisir. Niquer l'État, braquer la banque. Foncer dans le bar et que vivent les banques. Et que vivent les banques, et que vivent les banques.
Les dagos, c'est d'un mec. 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 Les dagos, c'est d'un mec.
J'ai la rigueur d'un taulard, j'quitte mon malheur tous les soirs, j'monte la chaleur jusqu'à tard, j'quitte ma torpeur, j'prends ma part.
Ambiance story dans le lit, sous un torrent de fuite, j'devrais bouffer le pissenlit par la racine. Ouais.
avec mes gosses, on ira manger le monde, on ira manger le monde, on ira manger le monde. En attendant, je tourne en rond dans un 30 mètres carrés, c'est mieux que 9 mètres carrés. Maton derrière le hiton, à t'en rendre taré, à t'en rendre taré. En attendant, je tourne en rond dans un 30 mètres carrés, c'est mieux que 9 mètres carrés. Maton derrière le hiton, à t'en rendre taré, à t'en rendre taré.
Yes, c'était MC Rature, big up MC Rature de Nantes qui nous a envoyé cet inédit.
Yes, big up la famille, on pense à toi. Et on enchaîne sur les brèves.
Merci.
Dans cette émission, où j'introduis les brèves, t'as vu?
Merci poteau. Alors du coup, le sinistre de l'intérieur qui a communiqué hier les derniers chiffres de la gestion policière de l'épidémie. Ça ferait donc 12,6 millions de contrôles qui ont donné lieu à 762 106 verbalisations et 1733 gardes à vue. Ça se confirme donc, on est bien au cœur du pic épidémique policier. Sortez couvert la mif.
En Guadeloupe, c'est double galère. En plus de subir le confinement et le couvre-feu, les habitantes et habitants doivent faire face à des coupures d'eau à rallonge plus de 24 heures. Qui rend difficile le lavage des mains régulier qui est recommandé, et même tous les aspects de la vie quotidienne. Alors apparemment, les coupures d'eau, ça arrive souvent, et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe est pas très bavard sur le sujet. Du coup, les habitants et habitantes font des stocks de flotte non potable, et la Croix-Rouge distribue des bouteilles, mais bon, c'est rationné quoi. En revanche, j'ai lu que la pression était au max, donc la pression en flotte était au max au golfe de Saint-François.
On vous avait parlé dans les brèves de la messe clandestine de Pâques qui s'était tenue à Saint-Nicolas-du-Chardonnay chez les bourges intégristes parisiens. On s'expliquait pas très bien déjà à l'époque la mansuétude de la préfecture de police qui n'était intervenue qu'à la fin de la cérémonie, se contentant de donner une amende au prêtre qui officiait après avoir laissé les 30 participants s'éclipser tranquillement. On apprend dans Le Point que des policiers se sont présentés quelques temps plus tôt à l'entrée d'église, ont constaté la présence de participants et qu'une cérémonie s'y déroulait. Faut dire que c'était obligé de savoir, les orgues jouaient à plein volume en toute tranquillité. Et surtout que les 10 policiers se sont vus ordonner de rentrer à leur base quand ils ont fait état de tout ça à la préfecture de police. Parce que le confinement, c'est que pour les pauvres patates.
Yep, et puis Anthony Smith, inspecteur du travail dans le département de la Marne, a été démis de ses fonctions pour avoir voulu continuer à contrôler les entreprises qui maintiennent leur activité pendant l'épidémie. Il lui est reproché d'avoir demandé à un employeur de garantir l'accès à des masques de protection et autres équipements aux travailleurs et travailleuses, alors même que plusieurs salariés de cette association ont été hospitalisés et plusieurs autres sont en arrêt pour suspicion de Covid-19. Cette procédure de suspension viendrait directement de la direction départementale de l'inspection du travail en collaboration avec le patron de cette association. La responsable départementale de la directe de la Marne a ouvertement invité par écrit l'employeur à faire obstacle au contrôle engagé en lui conseillant de ne plus répondre aux sollicitations de l'inspecteur du travail. On est rassuré, l'économie sera relancée.
Tu parles. D'après Le Canard Enchaîné, dans le sud de l'Italie, les mafias locales prennent de vitesse le gouvernement pour livrer des denrées de première nécessité aux familles pauvres et renflouer les PME locales. Et s'achètent ainsi des allégeances et des complicités. C'est une course, dénonce le maire de Naples. Si les mafieux arrivent les premiers, nous risquons la contagion criminelle. Finalement, un État, c'est jamais qu'une mafia qui a réussi, n'est-ce pas ? Et pour finir, on apprend qu'après s'être fait voter les pleins pouvoirs pour mieux lutter contre le Covid-19, le Premier ministre hongrois Viktor Orban est passé aux travaux pratiques. L'une de ses premières décisions a consisté à préparer une loi pour mettre fin à la reconnaissance du statut des personnes transgenres. Viktor Orban est une crapule infâme.
Ok, on passe direct à la chronique de R.
Privé de sortie.
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 Privé de sortie. L'émission des confinés de Marseille.
Ça fait 3 jours, ça fait 5 jours, ça fait 8 jours, ça fait 10 jours, ça fait des années qu'on est enfermé chez nous. Mais comment ils veulent qu'on tienne? Mais c'est eux les grands malades, pas dans leur tête ou quoi? Mais
vous êtes dangereux, on va vous la mettre à l'envers.
Chronique de confinement.
Bah alors les bros, on n'a pas la forme ? Rassurez-vous, c'est pas Décathlon ici non plus. Alors oui, on est bien lotis, oui, on mange bien, même si des fois c'est la dèche. Mais là, il s'agit de savoir comment on va se sortir de ce bourbier. C'est sûr, depuis qu'il s'attaque au cortège de fenêtres, ça peut faire un peu froid dans le dos. Non mais sérieux, ils innovent en chargeant les balcons avec des échelles ou quoi ? On aura tout vu, hein. J'attends de voir leur tactique de maintien de l'ordre quand à 18h, demain, on criera notre solidarité à toutes ceux et toutes celles enfermées. Sinon, ça a l'air du taf la radio. Non mais franchement, tenir une émission une fois par jour, tous les jours, dans un appart, enfermé ou presque toute la journée, à trois gaillards, je vois pas du tout le problème. Mais comment il vous est venu cette idée, les gars ? Vous planiez ou quoi ? Non, pour de vrai, pouvez-nous le dire maintenant ? C'était au réveil d'un long week-end bien épicé, après avoir bourlingué d'appart en teuf en passant par les quais et les places, du vendredi soir au lundi matin, finir chez un pote et vous y écraser. Pour finalement reprendre connaissance le matin du mercredi 11 mars, le jour d'après de l'annonce du confinement intégral. Vous vous réveillez chacun votre tour avec 1000 messages, texto, signal, WhatsApp, mail, en vous demandant où vous êtes et si vous êtes toujours en vie. Et 42 000 appels en absence des unes et des autres, plus ou moins proches, en panique parce que il et elle ne veulent pas rester tout seuls. Vous pouvez nous le dire là maintenant que vous avez réalisé que c'était la merde, après avoir bu un café. Et que subitement, dans la continuité de votre vie de débauche, vous avez décidé de rester dans cet appart et d'y installer un studio pour y faire de la radio. Mais c'est pas grave, les gars. Nous aussi, on savait pas que ça allait durer autant de temps. Allez, big up, les bros.
Big up.
Yes, trop bien. Merci beaucoup à R pour cette chronique qui nous ravigote, évidemment. Allez, on va s'enchaîner avec sur la playlist, toujours avec les copines qui posent des gros sons. Il s'agit de Léon. On lui fait un gros big up depuis Toulouse, enfin depuis Marseille pour Toulouse. On s'écoute ça. C'est goutte à goutte. Ça vient de sortir. C'est exclusivité comme la précédente. Aïe. 88.4, Radio Galère.
Mon cerveau va trop vite, je te dilate le temps. Ton cerveau est trop vide, tout le temps, tout le temps. Mon cerveau va trop vite, je te dilate le temps. Ton cerveau est trop vide, tout le temps, tout le temps. À chaque jour suffit sa balade, le temps se dilate, c'est la pénurie, tire tête de latte, y'a là. Toujours des pizzas et des pâtes, y'a le plus de schémas, plus de taf au black shit. La vie, ça se vit pas sur Snapchat, tu sers, parce que tu sers plus de chat. Je sors, je mange un contrôle parce que Pushka, je m'en fous, je les emboucane moi. Ils me laissent qu'ils trancent de bande de races et si je prie, qu'ils se mangent pas sur leur prochaine prise. Si je me laisse aller, la météo est triste. Mes gens éparpillés, mais je sais qu'ils existent, ça compte. Nouvel ampère maintenant, le téléphone ça cut. Les voisins sous cul, ça me saoule. Si je fais pas mes abdos, j'ai des larmes entre les côtes. Ça goutte à goutte de sang. Là-bas, ça guette et guette que le sale. Dans le cœur, j'ai mes sœurs, mais y'a que lui que j'appelle le saint. Je connais pas l'anatomie, l'hématome au viscère, je le sens. Attends, si je le bute, c'est qu'une faute de frappe, non. Alors qu'il est ce bâtard, doit prendre sa femme pour ça que te frappe. Je m'en fous de la grande vérité, moi, ça m'intéresse à peine. Moi, je veux connaître la tienne, de toute façon, on n'a pas trop d'emprise. Madame a mis les doigts dans la prise, monsieur a multiplié les prises. Et voilà, voilà, tu me voyais pas, mais j'étais là. On ride avec la foi, dans le biberon, il y avait GTA, de toute façon. On n'a pas trop d'emprise, mais quand même, je pilote ma palette pour égayer ta matière grise. Avant de parler de la Palestine, sors les tiens de la mouise. En plus, là-haut, c'est la faiblesse de voir comment se divise. Easy, ça goûte à goutte de sang. Ça guette et guette que le sale. Ça goûte à goutte de sang. Là-bas, ça guette et guette que le sale. Ça goûte à goutte de sang. Ça guette et guette que le sale. Ça goûte à goutte de sang. Ça guette et guette que le sale. Ça goûte à goutte de sang. Ça guette et guette que le sale. Ça goûte à goutte de sang. Ça guette et guette que le sale.
L'émission des confinés de Marseille.
Jeudi 9 avril 2020, nous avons organisé une lecture et une analyse collective du rapport de Mounir Majoubi, intitulé « Traçage des données mobiles dans la lutte contre le Covid-19 ». Une note parlementaire publiée et transmise le 6 avril 2020 aux députés. Nous sommes 9 membres de FAI Maison, un fabricant d'accès à Internet associatif nantais. Nous avions envie de vous partager ce que nous avons retenu de ce rapport d'une quarantaine de pages.
Privé de sortie, tous les jours à 16h sur Radio Galère.
Ce document, le rapport Mounir Majoubi, fait un état des lieux du pistage des populations par le biais des smartphones pendant la pandémie, en s'appuyant notamment sur ce qui se passe à l'étranger. Mounir Majoubi, l'auteur du rapport, y recense 3 objectifs distincts. 1. L'observation des pratiques collectives de mobilité et de confinement, comme la cartographie des déplacements de population. 2. L'identification des sujets dits contacts, ce qu'on appelle le backtracking ou contact tracking. Et 3. Le contrôle des confinements individuels. Plusieurs technologies y sont évoquées, le bornage téléphonique, les applications GPS, des applications Bluetooth, les systèmes de cartes bancaires et de transport, la vidéosurveillance dotée ou non d'intelligence artificielle. Pour chaque objectif sont déclinées les différentes technologies possibles et y sont analysées les potentiels et les limites. Il est largement question d'applications utilisant le Bluetooth du téléphone. Leur but serait de savoir si notre téléphone a été à proximité du téléphone d'une personne infectée et d'en être informé. Ce type de système nous a questionnés à plusieurs titres. Tout d'abord, le rapport précise que l'efficacité de ce type d'outil sécuritaire n'est pas prouvée. De façon plus globale, le rapport ne mentionne que peu cette question et évoque un vague contrôle citoyen.
Extrait du rapport. Les applications Bluetooth n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité sanitaire. Les opportunités offertes par les nouvelles technologies ont pour clé de voûte l'acceptation populaire. Celle-ci repose sur plusieurs exigences, dont une proportionnalité des méthodes aux objectifs, une pleine transparence des pratiques et notamment des codes informatiques et une véritable gouvernance indépendante de contrôle en capacité d'évaluer efficacement et à tout moment les pratiques et leurs performances sanitaires.
On apprend dans le rapport qu'il faut que 60% de la population soit équipée de l'application Bluetooth pour espérer en voir des effets. La France compterait un taux d'équipement de smartphones à hauteur de 80%. On comprend alors que l'on atteindra très difficilement 60% d'installation de ce genre d'application si on se base sur le simple volontariat. Les hypothèses avancées pour augmenter le taux d'équipement de la population seraient de passer à une phase de promotion, ou plutôt disons de propagande dans les médias, l'utilisation de personnes faisant autorité, notamment les professionnels de santé, d'utiliser des méthodes coercitives carrément, voire d'imposer l'installation de l'application en demandant de l'aide aux éditeurs de systèmes d'exploitation comme Google pour Android, Apple pour iOS ou même aux opérateurs mobiles. Comment fonctionne ce genre d'application ? En fait, elle garde la liste des identifiants des téléphones mobiles qui ont été proches les uns des autres en les communiquant via Bluetooth. Dans le rapport, il est mis en évidence que l'identité du propriétaire du téléphone et que les informations personnelles ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'application. Un simple identifiant unique par mobile est utilisé. Une liste de questions arrive. Combien de personnes portent le téléphone d'un autre ou d'une autre ? On peut donc en conclure que quand bien même l'identifiant est porté par un téléphone, on identifie assez fortement la personne porteuse elle-même. Quid aussi du fait qu'on oblige les gens à avoir le Bluetooth allumé en permanence, alors que d'une part ça peut poser problème en termes de sécurité, et d'autre part que cette technique est utilisée par les professionnels du marketing pour nous suivre à la trace. En plus de cette efficacité non prouvée, le rapport souligne d'autres problèmes, comme le faux sentiment de sécurité qui en découle. Une personne peut se retrouver dans une zone infectée, mais sans qu'un téléphone équipé ne soit présent. Le risque est donc là, mais l'application ne sert à rien. Et puis, l'anxiété générée due au fait que nous pouvons être notifiés à tout moment lors d'une possible infection. Avant même l'utilisation d'applications mobiles, il a déjà été envisagé de tracer les personnes via leur opérateur mobile, en requérant les factures détaillées, ce qu'on appelle les FADET, mais aussi l'historique de géolocalisation enregistrée par les antennes relais. Ça s'appelle le bornage, et c'est ce bornage qui permet le fameux backtracking. C'est le cas entre autres en Allemagne, ce qui a suscité un tollé. L'idée d'une application exploitant le Bluetooth émerge alors avec l'aide d'autres partenaires européens. Un des critères d'acceptabilité serait de la rendre open source, que le code puisse être consulté par toutes et tous. quand bien même l'application serait open source, ça ne la rendrait pas plus acceptable. Ce genre d'outil rejoint la longue liste des dispositifs techno-solutionnistes très dangereux du point de vue des libertés publiques et individuelles. Les bénéfices sont douteux et les menaces pour la population sont bien réelles. Le rapport ajoute que ce genre d'application ne serait efficace que couplé avec des tests de dépistage massif, ce qui est attendu depuis le mois de janvier en France. Se pose aussi la question du libre consentement d'avoir nos données traitées et nos vies tracées. Que restera-t-il comme activité libre pour les personnes refusant légitimement d'être équipées de tels dispositifs ? Comme les lois sécuritaires du terrorisme ont servi à assigner à résidence des militants écologistes, l'urgence sanitaire ne permettra-t-elle pas de confiner à demeure des groupes politiques, syndicaux, en fonction de leurs croyances, de leur orientation sexuelle ou autre ? Quelles sont les garanties sur la fin de mise en place de ce dispositif ? Existe-t-il un contre-pouvoir pour surveiller la mise en place de ce dispositif ? Quelles seront les garanties de voir désinstaller cette application après la crise sanitaire ? Comment garantir que la finalité n'évoluera pas dans le temps ? Dérive étatique pour confiner des personnes sous prétexte sanitaire en fonction de leur sensibilité politique, de leurs croyances, de leur orientation sexuelle, encore une fois. Les moyens techniques sont déjà là. Il suffit de les exploiter de façon plus importante qu'aujourd'hui, notamment en ajoutant des passerelles entre les acteurs privés qui collectent ces informations et l'État.
Extrait du rapport. Pour fonctionner, de nombreuses applications mobiles récupèrent et stockent les coordonnées GPS de leurs utilisateurs. Il en va ainsi d'applications populaires telles que Google Maps, Waze, Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Lime. Les historiques ainsi constitués par les applications les plus utilisées peuvent ainsi être agrégés et anonymisés pour témoigner de mouvements de population à l'échelle d'un continent, d'un pays, d'une ville ou d'un quartier.
La question des libertés individuelles, de libre circulation et de rassemblement passe très au second plan en raison de la gravité de la situation sanitaire. Nous sommes face à de simples promesses d'utiliser ces dispositifs uniquement pour notre bien. L'histoire, y compris récente avec l'intégration dans le droit commun de l'état d'urgence lié au terrorisme, nous démontre qu'on ne doit pas faire confiance à ces discours et que ces outils de contrôle social continueront très probablement à être utilisés après la crise actuelle.
Extrait du rapport. Pour l'État, l'enjeu de données fiables et détaillées sur les mouvements de population est double. À l'échelle nationale et régionale, adapter par anticipation les capacités médicales, sociales et sécuritaires en fonction du nombre réel de personnes présentes à un endroit donné. À l'échelle d'un quartier, détecter les espaces publics anormalement fréquentés en temps de confinement pour permettre d'adapter localement les réponses sociales, sanitaires et sécuritaires.
Nous savons également qu'avoir un discours qui ne va pas dans le sens de plus de sécurité est difficilement audible. C'est déjà le cas dans un contexte terroriste, c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de santé ou de vie à sauver. Alors, quelle porte de sortie ? Selon nous, il faut tester et dépister la population. Il faut des moyens de se protéger, des masques, du gel hydroalcoolique et du savon. Il faut une prise de conscience que chaque geste d'hygiène contribuant à retarder le virus donne plus de chances à nos hôpitaux de pouvoir suivre la cadence. Et il faut plus de moyens pour l'hôpital public. À la lecture de ce rapport, on peut voir que la peur semble pouvoir tout justifier. En particulier, que peut-on opposer lorsqu'il s'agit de sauver des vies ? Pour autant, il n'est fait mention nulle part d'une réelle efficacité de tels outils de contrôle sur la lutte contre la diffusion du virus.
Extrait du rapport. Dans certains pays, les dispositifs étatiques de collecte et de traitement massif de données sans consentement des utilisateurs ont été mis en place dans le cadre de mesures exceptionnelles. L'efficacité réelle de ces dispositifs reste à ce jour mal évaluée.
Nous avons également remarqué l'utilisation de nombreux éléments de langage destinés à aseptiser la réalité. Par exemple,
la Chine, Taïwan et la Corée du Sud exploitent de nombreux leviers technologiques, parfois avec succès, mais en questionnant les libertés.
Des questions sur la réalité de l'anonymisation des données restent en suspens. Ainsi, dans le cas de l'utilisation via Bluetooth, sachant que chaque téléphone a un référent unique, une plaque d'immatriculation, comment garantir que les données ne seront pas liées à une personne physique ? En outre, l'anonymisation des données de géolocalisation est aussi questionnable, la géolocalisation dit où nous habitons par exemple. De même, l'utilisation de détection en champ proche de deux appareils permet en partant d'un téléphone donné, de savoir à quelle distance probable se trouve leur porteur. Un appareil croisé il y a 10 minutes est forcément proche de l'appareil observé, par exemple. Telles que présentées par nos gouvernements et relayées par nos médias, ces solutions de pistage semblent rencontrer un large écho favorable auprès de la population. Comment penser autrement lorsqu'elles sont présentées comme l'unique solution viable pour sortir du confinement ? Il est probable que plus le temps passe, plus la population se saisira de la première solution à portée de main pour se déconfiner, sans réflexion préalable. C'est pourquoi il convient de défaire cet argumentaire fallacieux et orienté en expliquant que d'autres solutions peuvent permettre de sortir de cette situation. Sachez qu'entre le moment de notre analyse du texte et maintenant, Google et Apple ont annoncé qu'ils allaient unir leurs efforts avec une techno-solution commune. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez lire l'éditorial de Serge Halimi qui permet de comprendre dans quoi cette volonté de tracer les populations s'inscrit, quelles sont les extensions possibles et aussi d'apprendre que ce genre de dispositif mis en place lors de moments particuliers reste toujours après que ces événements soient passés. Ce sont donc des menaces durables une fois qu'elles sont là. Arpentage du rapport de Mounir Marjoubi sur le traçage des données mobiles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, proposé par FAI Maison de Nantes.
Privé de sortie, l'émission des confinés de Marseille.
Putain, je commence à me faire yesh. Écris du rap, esprit du mal. Dans la merde, j'éclatais rien. Oui, j'étais éclaté hier. C'est décidé, j'arrête le sky. J'adore ça déblatérer sur les tailles de barrettes de hache. Ça fait un bail, je vais plus au four. Il m'a pas mis la bûche. Ce bâtard, il a vu que je suis à sec comme cafard, il abuse. Mais pourquoi je dis ça? Manière qui m'écoute, ma manière de rimer sous et sous mes tags, et bah j'écris mes crews. Personne dit ah mais qui les couche, vu que ça veste qui les couche. Les bons moments sont rares, donc apprécie-les tous. Faut que je boive de l'eau, vite, je vais mourir. L'humain vaut pas grand chose, parle que de bite et de se nourrir. Sourire, pourquoi faire soupir toute la semaine. Le tout bip nous maltraite et se pourrit, nous parle d'air. Je vois le tel. On voit des rimes implacables malgré la dalle. On fait ce qu'on peut pour pas finir au placard. Avec les potes on éclate des prods. De toi tu vends des tonnes, on s'en tape les codes. La publicité me met la barre au crâne. Dis ta cupidité écrit à cabocra. Quand j'étais petit je voulais conjurer des pénis. J'ai bien réfléchi, je me dis qu'au fond c'est pénible. Je travaillerai pas, me pavanerai grave du cas par au cas. Passe à cas par l'état, demande à Vito et il est. Escarte des vitres de l'île, il faudrait que je change de ville. Vie de galère, ni des chansons de l'hymne. C'était des culs sur la putra. Me fera rêver tes dents cul et à 2 grammes. De quoi je cause, qu'on marche, covidé. Mettez deux points de hâte gras, putain de sa race. Putain de Sarah, je la cabine, la piscine et le butin de Sarah. Toujours, oh oui, MEDP. Confiné chez Makin, c'est rêve d'été. Confiné chez Makin, c'est rêve d'été.
C'est la bûche, voilà.
Vous êtes bien l'écoute de Radio Galère sur le 88.4 et c'est privé de sortie. Et on fait un gros big up à Kefta et à la famille de MDP. Allez checker le son sur mix-down.net. Alors voilà, depuis tout ce temps qu'on fait des émissions, là on l'a dit, c'est la 25e, waouh, c'est un truc de ouf. Et ben en filigrane quand même, mais uniquement en filigrane, et on trouvait ça dommage. On parle de temps en temps de la question du logement, et à Marseille on sait que c'est une question en fait qui est juste prépondérante et qui est genre vitale pour des milliers de personnes. Et voilà, sans avoir trop de biais par lequel accéder à cette question là on est tombé en fait genre sur une tribune parue dans Libération très récemment, qui a été publiée par un collectif qui rassemble plein de collectifs, notamment le collectif du 5 novembre, Noailles en colère, et puis d'autres collectifs dont on a déjà parlé, Saint-Just, El Mamba, l'Assemblée de la Plaine, collectif du boulevard d'Ada, des syndicats, et puis aussi des collectifs comme la LDH, la CIMAD, etc. Et cette tribune s'intitule « À Marseille, l'homicide par négligence qui se prépare ». Ça parle du logement et on vous la lit tout de suite.
Voilà maintenant bientôt 18 mois que 8 personnes ont perdu la vie dans les effondrements de deux immeubles rue d'Aubagne, en plein cœur de Marseille. Bientôt 18 mois que nous, collectifs et associations d'habitants, nous battons avec les 4000 personnes délogées des 500 immeubles qui ont été placés sous arrêté de péril imminent. Cette fois, l'alerte est donnée par un long courrier d'architectes ingénieurs du service sécurité des immeubles de la ville de Marseille, révélé vendredi 10 avril par le journal Le Ravi. Un constat courageux d'une extrême gravité, établi par celles et ceux qui ont la vie de milliers d'entre nous entre les mains. Un manque d'effectifs, de matériel, de formation du personnel dans ce service pourtant crucial pour gérer la crise, des burn-out déjà révélés par la presse sans qu'aucune suite ne leur soit donnée. C'est ainsi que 2600 signalements d'immeubles sous suspicion de péril adressés à ce service n'ont pu être traités. 230 immeubles en péril grave et imminent, 180 immeubles en péril ordinaire non suivi, autant d'habitants, habitantes en danger, à l'avenir incertain. Des dysfonctionnements organisationnels, absence de communication, de capacité d'anticipation, des retards d'arbitrage, délais de validation et de signature des arrêtés de péril anormalement longs, mettant directement en jeu la sécurité des occupants. L'absence de marché d'exécution pour réaliser des travaux d'office lorsque les propriétaires sont défaillants. Et enfin, des décisions précipitées à l'échelon politique, sans aucun dialogue avec les habitants concernés qui les découvrent dans la presse. C'est récemment le cas des immeubles 69-71 rue d'Aubagne, voisins de ceux effondrés dont la démolition est décidée par le maire de Marseille. Selon nos informations, cette décision semble avoir précipité l'alerte lancée par les techniciens. À Noailles, après des mois de pourrissement, de tels choix sans dialogue, qu'ils soient ou non justifiés, alimentent une psychose et révèlent un traumatisme encore proche. Bientôt 18 mois que nous alertons sur l'incapacité des pouvoirs locaux et nationaux à répondre à la crise structurelle du logement à Marseille. 40 000 logements indignes estimés dans lesquels 100 000 personnes parmi les plus pauvres se retrouvent aujourd'hui confinées. Un confinement dans des logements indignes défini comme portant une atteinte grave à la santé de leurs occupants. Des années que nous nous battons pour un droit à la ville pour toutes et tous, pour un Marseille vivant et populaire. Cette réalité n'est pas nouvelle, elle a été maintes fois décrite et dénoncée par les habitants eux-mêmes, les associations et les collectifs dont on reconnaît à demi-mot, dans cette période de crise sanitaire, l'ancrage et la nécessité. Cette réalité est décrite, chiffre à l'appui, dans plusieurs rapports officiels dès 2015, rapport CEREMA, rapport Nicole, relaté par la rapporteuse au droit au logement de l'ONU, par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, ou récemment par des universitaires du laboratoire Population, Environnement, Développement. Et encore largement décrite par l'ensemble des médias locaux et nationaux. Nul n'ignore la situation. Ce courrier des architectes et ingénieurs du service sécurité des immeubles de la ville de Marseille met directement en cause une chaîne de responsabilité, des hauts fonctionnaires jusqu'aux élus. Après 18 mois de mobilisation des Marseillais et Marseillaises et l'espoir qu'avait suscité la signature en juin dernier d'une charte du relogement entre l'État, la ville et les collectifs, l'horizon d'un changement de politique du logement s'éloigne chaque jour. Les fondations d'une politique du logement ignorée. De nouveaux drames se rapprochent irrémédiablement et se vivent chaque jour dans le confinement des 40 000 logements potentiellement indignes que compte la ville, auxquels s'ajoutent tous les autres logements suroccupés qui exposent leurs habitants à des risques sanitaires et sociaux. Nous refusons d'attendre de nouveaux morts. Nous exigeons donc aujourd'hui que Monsieur le maire de Marseille suspende immédiatement son adjoint Julien Ruas, délégué à la prévention et gestion des risques, destinataire du courrier des architectes et ingénieurs. Mais c'est l'ensemble de la politique du logement et de lutte contre l'habitat indigne qui doit être remis à plat. Les habitants, conseils citoyens, collectifs et associations, porteurs de nombreuses propositions et d'une expertise d'usage, doivent maintenant être associés à ce chantier. Ils doivent être représentés dans les nouveaux cadres et des projets urbains, notamment au sein du nouveau projet partenarial d'aménagement qui vise la réhabilitation du grand centre-ville en prévoyant déjà des évacuations et des relogements, mais où la place des habitants n'a pas été prévue. Face aux carences structurelles et durables du management des services municipaux en charge de la sécurité des immeubles de Marseille, l'État, au titre de son pouvoir de police subsidiaire en la matière, doit faire connaître immédiatement la manière dont il entend répondre à cette défaillance de la ville de Marseille afin de garantir la sécurité publique. Nous exigeons des réponses immédiates du maire et du ministre du Logement. Il en va de notre avenir et de celui de notre ville. Il en va de notre vie plus que jamais.
Non, ne fais pas l'ange, c'est dangereux quand je manie le mic comme un engin. Frangin, non, ne fais pas l'ange, c'est dangereux quand je manie le mic comme un engin. On change rien, pas de titre à remettre en jeu.
Frangin,
ta sueur coule, tu deviens étrange.
Je m'étrangle,
je m'étrangle
devant les gens qui j'appuie sur le feu.
Faire les shows alors que c'est tranquille,
tranquille.
Je laisse les rats se battre entre eux.
Je vais pas te la prendre.
Si tu le veux pas, prends-le.
Tu transpires, tremble et dis-moi ce que ça change.
Je suis sans gêne.
Non, je rigole, je tourne cette fois ma langue.
Protège tes côtes, le danger est à tes côtes. Quelle drôle d'époque, un point c'est tout débat. Et cloguette, l'état des choses, les decks, l'état c'est chaud. Mais moi des fois je déconne et ça décoiffe, t'es chaud comme un ange. Je manie le mic, l'ami.
Faut que je ravitaille l'ami.
T'as pas 10 balles. Tu paries quoi?
Qu'on s'habitoie,
on rabitoie.
Je suis animal, prends Paris-Ton comme Paris-Wise.
Je veux une 16, 64 et 2, 11, 43.
Pour faire d'une pierre deux coups
et jamais 203.
Tu 222,
bienvenue 6 pieds sous terre.
H24, je parle en chiffres.
Je veux des billets d'ouvert.
Je vous prierai de vous taire.
Privé de goûter.
On va plier ce couplet, passer prioritaire comme un ancien.
J'arrive à l'ancienne.
Parle de mon style ambiant.
Je suis l'ambivalence même. Déchire la dentelle,
anti-balance mec.
Wesh, évite la tempête, ça s'enchite à 100 mètres.
Évidemment, quoi, on écrit de la branlette.
Il t'oublie la tendresse,
on te la mise à l'envers.
Frangin, non, ne fais pas l'ange, c'est dangereux quand je manie le mic comme un ange.
Frangin,
non, ne fais pas l'ange, c'est dangereux quand je manie le mic comme un ange.
Mélange
la mixture,
je m'appuie sur la bribus.
C'est cramé par la chemise,
comme le pif sur la figure.
T'as kiffé sur la vitrine,
c'est bouillant comme la friture.
Tu douilles, tu capitules,
c'est tout le temps comme d'habitude.
Flonné en blanc,
je lâche le volant, fais la hola, mais pas le violent.
Viens dans le sud, c'est la hola.
La rade des sauts, c'est insolent. On a mis le mal, tu vois comment.
J'fais la roga, fais un saut de l'ange. À la fin, faut des ambulances. Wesh, frangin, tu me sortes ces trucs. Avant de faire l'or, j'commence par torcher le huc.
J'suis tellement fort que quand j'ai tort, j'ai juste. Écoute l'oracle, on va tous morfler plus. Y'a rien à faire, j'm'envoie de gorgée de russe.
La rime est morte, on a trop forcé dessus. Faire l'effort c'est dur, même quand j'ai tort j'ai juste.
Mon tort encore en tort dans les bras de Morpheus.
Ouais, je prends ça, c'est insolent.
J'ai une phalangie.
Courage Mino.
Aïe.
Appartement 222.
La famille, toujours du très bon son.
Ok. On arrive à la fin de cette émission. On s'est regardé pendant de longues secondes, ah savoir ouais, qui c'est qui allait saisir ce micro.
Ça a paru une éternité.
On s'est laissé poliment le truc, regarde, tu sais, question du regard, tout ça. Bon, on arrive sur la fin de cette émission, on est vendredi, c'est même la fin de la semaine. Et du coup, ben, on se retrouvera demain avec des nouveaux programmes. Mais il y avait des petits trucs à rappeler, non? Il fallait qu'on remercie, oui, les radios.
C'est ça, on voulait remercier particulièrement Mathéo et pour son mail et pour l'écoute. Et lui, c'était beaucoup de force dans tout ce qu'il traverse en ce moment.
Et on pense un gros big up à Radio Piquez, à Adrien, Adèle et donc Mathéo. Big up à vous.
Big up à Karim Manouche de RGO, Radio Grille Ouverte. Aïe. Merci pour le mail aussi, ça fait trop plaisir.
Ça fait tellement plaisir, merci beaucoup.
Ouais, toujours big up à nos chroniqueuses pardon, préférées qui sont toujours dans l'émission. On sait que PF revient dès lundi.
Allez, restez bien à l'écoute de Privé de Sortie. Vous nous retrouvez sur le Facebook, sur le site radiogalère.org. Demain, ce sera une sorte de moment choisi, melting pot, best-of. On sait pas trop comment le dire à chaque fois, mais on trouvera Florilège aussi. Ça c'était bien, ça. Florilège, c'était bien. On est tous d'accord là-dessus. Donc demain, c'est Florilège de morceaux choisis de la semaine. Donc ce sera une rediffusion. Et dimanche, on sera en direct, comme tous les dimanches, pour faire une spéciale dédicace. Et d'ailleurs, on ouvrira le téléphone aux appels, carrément. Ouais, ouais. Grave. On s'est dit que ce serait bien quand même de
on veut vous
ça.
Entendre un peu là.
C'est la base quand même.
Voilà, à demain pour ceux qui écouteront la compile.
Allez, à demain, ciao, bon week-end.
Privé de sortie.
C'est l'émission des confinés de Marseille en direct depuis un appart confiné, bien sûr.